Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes avant l'observation du repas du Seigneur à examiner un passage et puis méditer ensemble sur quelque chose que j'ai à cœur depuis un certain temps. Je vous invite à prendre votre Bible dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, pour les membres de l'Église qui étaient présents à la réunion familiale, c'est-à-dire l'Assemblée semestrielle il y a quelques semaines, ce passage va vous sembler familier. C'est le même que j'avais pris à ce moment-là. Mais c'est un passage clé et je tiens à commencer ici pour introduire en fait une série de, on va dire, de méditations, de prédications pour notre réflexion, pour l'avancement de nous tous. Alors dans Éphésiens chapitre 4, c'est un peu dommage, nous arrivons un peu au milieu du chapitre et puis aussi au milieu du livre. Et Paul, il est en train d'écrire à cette église qui allait assez bien. Pas mal de choses pour lesquelles Paul pouvait louer cette église et pourtant quelques lacunes et il essaie de rétablir cela. Mais dans le chapitre 4, Paul commence à expliquer qu'est-ce que c'est l'église. Et il va expliquer ce que Dieu a prévu pour l'église. Et à partir de verset 11, suivez avec moi alors que je lis les versets qui suivent. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il, alors il est question de Jésus-Christ ici, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Prions pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, tu vois toutes choses, tu nous vois individuellement et tu sais ce que tu as préparé pour chacun, que tu touches notre cœur, que tu enlèves tout obstacle à la réception de ta parole et aussi à la mise en pratique de ce que tu as pour nous. Et ainsi, Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Ce que Paul est en train d'expliquer dans ce passage, vous le savez, je pense, mais je le rappelle, c'est la volonté de Dieu pour l'Église. Et tout d'abord, lorsque nous entendons le mot « Église », lorsque vous entendez cela, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, « Église » ? Si vous voyez le mot, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Je pense pour la plupart, même entre nous, mais surtout dans le monde, quand on voit « Église », on a cette pensée dans l'esprit, un bâtiment, n'est-ce pas ? On a quatre murs, un toit, souvent une croix ou quelque chose de similaire. Quand on pense « Église », c'est surtout un lieu, un endroit, un bâtiment où, bien sûr, les gens se rassemblent, mais bon, c'est surtout une église, c'est surtout un bâtiment. Ou peut-être, quand on pense église, on pense à un mouvement, une mouvance. On parle de l'église catholique. On parle de l'église réformée. On parle de l'Église protestante. On parle de l'Église et on pourrait énumérer un ensemble de mouvances et qui prennent pour titre Église. Donc, parler d'un regroupement de personnes. Mais finalement, dans l'optique de Dieu, c'est quoi l'Église ? Et quand vous, spécifiquement, quand moi, j'entends, je réfléchis sur le mot « Église », comment est-ce que je dois y penser ? Est-ce que peut-être ma pensée doit être corrigée un peu ? Et est-ce qu'il y a des améliorations, des avancements, une croissance à faire dans ma compréhension et surtout dans ma vie ? Je crois que oui. Et Paul, dans ces quelques versets, il donne une esquisse, un peu la structure de ce que Dieu prévoit pour l'Église. Et vous l'avez vu peut-être dans ces versets, j'ai essayé de souligner un peu dans la lecture une des images, parce qu'il y en a plusieurs dans le Nouveau Testament, mais une des images que Dieu a poussé les auteurs du Nouveau Testament à utiliser en parlant de l'Église, c'est le corps. Et cette image, elle est tellement appropriée, déjà parce que ça vient de Dieu, mais parce que ça représente quand même tellement bien ce que Dieu est en train de faire en nous. Et au verset 12, déjà, regardez. Oui, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, un corps. Et puis, lorsque on voit à la fin du verset 13, là, la mesure de la stature parfaite de Christ, on parle là de ce qu'il est. Et puis, verset 16, c'est de lui, toujours de Christ, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant une solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, ses membres, ce qui le compose, et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, l'Église en tant que corps, c'est vraiment comme cela que nous devons y penser. L'Église, quand nous parlons de l'Église de Vernon, la première chose qui vient dans notre esprit ne devrait pas être ce bâtiment. Aussi bien qu'il soit, aussi bien placé qu'il soit. Et on loue Dieu d'avoir ce bâtiment, d'être propriétaire. On est quand même privilégié parmi les églises, ici en France. On est privilégié. Gloire à Dieu pour cela. Mais quand nous parlons de l'Église de Vernon, ça ne devrait pas se limiter ou même en tout premier être ce bâtiment. Non, l'Église, comme on dit souvent, ce sont les gens, ce sont les personnes. L'Église, finalement, c'est le rassemblement de personnes. D'ailleurs, le mot grec duquel nous avons notre mot en français « Église », « ecclesia », parle d'être appelé hors d'eux pour se rassembler. Et c'est ce que nous sommes. Si nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. Et Paul, dans ses versets d'Éphésiens 4, montre que finalement, le but de Dieu, c'est que nous regardions l'Église comme ce rassemblement qui est composé de parties différentes. Nous ne sommes pas tous les uns comme les autres. Et heureusement, imaginez si vous étiez tous comme moi. Hein, ça fait peur. Et imaginez si on était tous comme vous. Ça aussi, ça fait peur. D'accord ? On n'est pas des clones. On n'est pas des robots. Non. Nous avons été créés individuellement par Dieu avec nos différences. Et ça, c'est formidable. Et nous avons été créés par Dieu pour être ensemble. Nous rassembler ensemble. Mais pas simplement pour passer de bons moments ensemble. On n'est pas un club social. On n'est pas juste un regroupement de personnes qui viennent ensemble une fois par semaine, peut-être un peu plus, et puis on part dans la semaine et puis on revient ensemble parce que ça nous fait du bien, et voilà, parce que c'est la chose à faire. Non, 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 non. Tout comme le corps, ben, il est composé de parties différentes, de membres différents, mais ces membres restent ensemble, restent unis, restent attachés les uns aux autres. Imaginez-vous si un membre se détache du corps. On parle de traumatisme, n'est-ce pas? S'il y a un accident et quelqu'un perd un bras, une jambe, ben là, c'est un traumatisme. Et à ce moment-là, ben, c'est très grave. Et si un membre se détache du corps, c'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et le corps, bien qu'il soit composé de parties différentes, de membres différents, Paul, il va souligner cela vraiment avec l'église de Corinthe, dans les chapitres 12, 13 et 14 de sa première épître. Nous sommes ensemble, entre guillemets, pour le meilleur, pour le pire, mais nous sommes ensemble, chacun avec ses différences, mais nous sommes ensemble. Et donc, ce rassemblement de personnes sauvées, ce n'est pas parce qu'on vient dans un bâtiment qu'on fait partie de l'Église. Je dirais, ce n'est même pas parce qu'on est sauvés. Non, c'est un rassemblement de personnes sauvées ayant un même objectif. Parce que Paul, il dit qu'on croisse, qu'on grandisse, qu'on aille de l'avant ensemble. Avec un même objectif, obéissant au commandement que Dieu donne dans sa parole. C'est ça l'Église. Et c'est ça que les gens autour de nous doivent voir. Pas simplement un joli bâtiment. Rien de mal avec un joli bâtiment. Ça, on peut l'avoir et très bien si ça nous permet d'atteindre plus de personnes. Mais même si on ne l'avait pas, nous pourrions être une Église. Parce que l'Église, ce n'est pas un lieu forcément, ce n'est pas un bâtiment. Non, c'est le rassemblement de personnes. Et puis, parce que l'Église est composée de ces personnes rassemblées, et ça ne tient pas uniquement à une seule personne, la santé, le bien-être de l'Église dépend de chacun. Si l'Église ne va pas bien, tout comme un corps, ben ça affecte une partie affecte tout le reste. Si on est malade, comme j'ai failli l'être dans la semaine, jeudi, à la fin de la journée, j'étais vraiment pas bien. C'était jeudi ou vendredi, j'oublie. Je croyais tomber malade. Merci Seigneur, c'était pas le cas. Mais voilà, ça tient pas grand-chose. Ça commence dans la gorge. Mais après quelques courbatures, et on commence à avoir mal à la tête. Mais ça affecte le tout, n'est-ce pas? Ce n'est pas limité, localisé souvent à un endroit. Et parce que l'Église est comme un corps composé de personnes différentes, quand une partie du corps ne va pas bien, ça va affecter le reste. Et la santé de l'Église dépend de celle de chacun de ses membres. Et lorsque nous réfléchissons à l'Église dans ces termes-là, nous voyons que l'Église, pas le bâtiment, encore une fois, mais ce rassemblement de personnes ici est important. Et j'aimerais vous soumettre une question. Est-ce que l'Église, donc ce rassemblement de personnes, est importante pour vous? Je vous laisse méditer là-dessus. Ce rassemblement de personnes, spécifiquement ici, est-ce qu'il est important pour vous? Et si oui, comment le manifestez-vous? Si vous dites oui, et je pense que chacun ici dirait oui, l'Église, elle est importante. Ce rassemblement de personnes, il est important. D'accord, ben, comment vous le manifestez? Comment est-ce que moi, je le manifeste? Vous allez dire, ouais, mais Robert, t'es le pasteur. Il est évident, là, verset 11, Dieu a donné à l'Église ses responsables spirituels. Alors, c'est ta responsabilité de diriger cette Église et d'emmener plus loin. Oui, ça, c'est vrai. Mais vous l'avez bien lu avec moi. J'espère que vous avez bien compris que l'Église, ce rassemblement de personnes sauvées, est la responsabilité de chacun. et que le but de Dieu n'est pas simplement que quelques personnes gèrent les affaires de l'Église et que, comme notre frère Patrick en a parlé tout à l'heure, qu'il y ait des spectateurs. Non. Vous l'avez vu ici, dans ce passage, jusqu'à ce que, verset 13, nous soyons tous parvenus à la perfection de Christ. Et là, vous allez dire, mais Robert, tu n'es pas raisonnable. La perfection de Christ, non, mais ça, c'est trop, là. Et pourtant, c'est ce que moi, je lis dans le passage. Hein. Alors, si vous avez un problème avec ça, parlez-en à Dieu. Moi, je dis tout simplement ce qui est dans la Bible. Et ici, nous voyons que le but, ce vers quoi nous devons tendre, ce qui est important, c'est la santé de cette église ici. Cette église est importante. Et vous avez la responsabilité de montrer cette importance. Déjà par vos prières, que vous priez pour cette église. J'ai parlé tout à l'heure de ces feuilles de prière. Vous l'avez ? J'espère que oui. Si vous ne l'avez pas, prenez-la. Est-ce que vous vous en servez ? Je vous avoue que parfois, ma feuille de prière reste dans ma Bible et je ne m'en sers pas trop. Autant que je devrais. Je vous l'avoue. D'accord ? Je ne suis pas parfait. Je suis un homme, un être humain comme vous. Mais est-ce que nous montrons l'importance de l'Église en priant? Est-ce que nous montrons l'importance de l'Église par ce que nous donnons pour l'Église? Pas simplement en termes d'argent, bien que c'est ça, mais aussi par les ressources que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne. Est-ce que nous montrons l'importance de l'Église par notre présence? Il est impossible de dire que quelque chose est important si on ne lui accorde pas du temps. C'est une contradiction totale de dire que quelque chose est important si on ne lui accorde pas du temps. Alors, dire que l'Église est importante, mais ne lui pas accorder du temps, c'est une contradiction. Et l'un et l'autre n'est pas vrai. Donc, la santé de l'Église, encore une fois, parce qu'on parle de corps, on prend bien soin de notre corps, on prend des médicaments. On fait un peu d'exercice par moment. On s'assure que tout va bien. Et puis, quand ça ne va pas, on va chez le médecin, n'est-ce pas? Enfin, on est censé le faire. Moi, j'avoue, je ne le fais pas trop parce que je ne suis pas souvent malade. Mais bon. Et du coup, la santé de notre Église, on doit l'examiner face à la Bible. Et finalement, c'est ce que nous allons faire à travers les mois à venir. Parce que Dieu veut que notre Église... Encore une fois, pas le bâtiment, okay? Je crois que vous comprenez, c'est pas le bâtiment, mais ce rassemblement ici soit en bonne santé. L'Église doit être en bonne santé et doit faire des progrès. Si nous regardons le verset 16, c'est de lui, donc de Jésus-Christ, grâce à tous les liens de son assistance. Donc, Jésus est là pour nous aider, que tout le corps, pas juste quelques parties, imaginez-vous qu'un bras était deux fois plus long que l'autre. Et ben, ce serait un peu ridicule. Ou une jambe plus longue que l'autre, ou deux fois plus gros. Non, ça ne va pas. Non, tout le corps, tout ensemble, bien proportionné, exactement comme il faut, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Donc, on avance selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie, c'est-à-dire se construit lui-même dans l'amour. Et ce que Paul montre ici, c'est qu'une église qui fait ce que Dieu veut est une église qui va avancer. Et c'est une église où il y a l'implication de chacun. Alors, comment identifier une église en bonne santé? Alors, nous allons, à travers les mois à venir, examiner 9 caractéristiques d'une église en bonne santé. Je vais vous les donner, nous allons les développer dans les semaines à venir. et dans les mois plutôt à venir. Vous pouvez noter ceci si vous voulez. Alors, une église en bonne santé est une église où il y a la prédication de la parole. Et là, vous allez dire, mais ça semble évident. Oui, et pourtant, il y a des églises, enfin, des rassemblements de personnes, où la parole de Dieu n'est pas trop prêchée. Il faut le savoir. Il y a la prédication de la parole où la parole est au centre. Et pas des idées humaines appuyées par la parole. Non, c'est la parole qui est au centre. Alors, deuxième caractéristique, c'est une théologie biblique. Et vous allez dire, mais Robert, on n'est pas à l'école. C'est vrai. Et pourtant, la Bible nous explique des choses concernant Dieu. Et la théologie, finalement, c'est quoi ? Eh bien, ça vient du mot grec théos, donc Dieu. C'est ce qui est lié à Dieu. Alors, la théologie biblique, c'est-à-dire une bonne compréhension de qui est Dieu et de ce que lui il fait dans tous les domaines de la vie, est importante. Une théologie biblique. Alors, troisième caractéristique, c'est l'évangile. Et là aussi, vous allez dire, mais Robert, attends, c'est quand même des évidences. Oui, et pourtant, encore une fois, il y a des églises où l'évangile n'est pas au centre. Parce que c'est l'évangile qui change tout. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Jésus sauve des personnes qui sont perdues, qui sont déjà sous la condamnation de Dieu, sa colère est déjà là sur eux. Et c'est l'évangile qui doit être prêché. Alors, quatrième caractéristique, c'est la conversion. Et je suis convaincu que ceci est tellement important. Parce qu'une église en bonne santé présente la conversion. Et pas simplement une petite amélioration. 5 étapes pour améliorer sa vie. 5 étapes vers une vie meilleure. Non. La Bible parle de conversion sur la base de la repentance. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de salut. Alors, une église en bonne santé annonce et pratique la conversion. N'appelle pas les gens tout simplement à améliorer leur vie par quelques points, mais à une transformation totale par Jésus-Christ. Cinquième caractéristique, c'est l'évangélisation. Une église en bonne santé est une église qui évangélise. Et nous faisons cela ici, une fois par mois, à peu près, il y a des efforts d'évangélisation. Mais, laissez-moi vous dire ceci, si votre évangélisation se limite à quelques heures, une fois le dimanche, une fois par mois, le dimanche après-midi, il y a un problème. Si votre évangélisation se limite à ce qui est organisé officiellement par cette église, il y a un problème. Parce que nous sommes appelés à évangéliser partout. Et bien sûr, il y a des circonstances où nous allons le faire un peu différemment. Et selon les personnes qui sont devant nous, nous allons employer peut-être d'autres termes et nous allons nous utiliser d'autres images ou d'autres illustrations. Et peut-être ce sera quelques minutes, peut-être ce sera une demi-heure, peut-être ce sera des heures. Mais il faut qu'il y ait de l'évangélisation, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Alors, sixième caractéristique, c'est ce que moi je vais appeler l'appartenance. Alors, d'autres vont parler d'être membre, d'accord ? Mais on va transmettre cette idée par appartenance. Et on parle plus ici que d'une simple présence le dimanche matin ou même le mardi soir ou à d'autres réunions. L'appartenance, c'est plus qu'une simple présence. C'est une implication, entre guillemets, officielle où on dit, je vais dans la même direction que ce groupe et je me joins publiquement à cela. Donc, appartenance. Septième caractéristique, et ceci pourrait peut-être vous surprendre, mais on va développer cela, c'est la discipline. Aïe. Ah là là. Qui aime la discipline ? Personne. Même pas les parents. Les enfants, ils peuvent croire le contraire. Les parents disent, ceci me fait plus mal à moi qu'à toi. Ouais, c'est ça. Hein? Apparemment, les parents, c'est vrai. Je n'ai pas encore eu cette expérience, mais voilà. La discipline, c'est quelque chose de nécessaire dans la vie d'église. D'accord ? Et on va développer cela. Mais une église qui pratique la discipline est une église en bonne santé. Une église qui ne pratique pas la discipline, encore, biblique. Donc, discipline biblique. Une église qui ne la pratique pas n'est pas une église en bonne santé. Huitième point. Huitième caractéristique, c'est la croissance. Et ça, vous l'avez vu ici dans Éphésiens 4. Une église qui ne grandit pas, à la fois en nombre, mais surtout dans la qualité de ses membres, est une église qui n'est pas en bonne santé. Une église dont les membres n'avancent pas, ne font pas des progrès, est une église qui est en souffrance. Est une église qui a besoin de faire des changements. Alors, aussi, nous allons développer ce point dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis, neuvième point. Alors, cette liste n'est pas exhaustive. Ce ne sont pas les neuf caractéristiques définitives, les seules, mais ce sont neuf, parmi d'autres que peut-être on pourrait trouver. Mais neuvième point, c'est ce que nous allons appeler les dirigeants. Et ça, de nouveau, on le trouve dans ce passage tout au début, le verset 11. Dieu a donné à l'Église. Les responsables d'Église, ce n'est pas l'invention de l'homme. Paul ne s'est pas dit, ah tiens, ce serait bien si moi, j'étais pasteur, ou Timothée, qui était probablement le pasteur à Éphèse, ne s'est pas dit, ah tiens, personne d'autre le fait, alors moi, je prends les rênes et puis voilà, je prends le contrôle et moi... Ah non. Finalement, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des dirigeants, des responsables. Et on va parler de leur responsabilité et de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire aussi. Donc, une église biblique est une église qui a des dirigeants, des responsables identifiables, répondant à l'église et surtout devant Dieu. Alors, lorsque nous réfléchissons à ces neuf caractéristiques, bien sûr, la tentation peut être là de dire « Ah oui, je connais une église qui peut-être ne répond pas à ceci. Ah oui, telle ou telle église, je sais, elle ne fait pas ça. » Et finalement, on veut vraiment essayer d'éviter cette tentation-là et surtout réfléchir à notre église. C'est-à-dire ce rassemblement ici. Est-ce que si nous prenions aujourd'hui ces neuf caractéristiques et on examinait notre église chacun à la lumière de ces neuf caractéristiques, est-ce qu'en toute honnêteté devant Dieu, nous pourrions dire nous sommes une église en bonne santé ? Avec tristesse, je dois avouer que la réponse serait mitigée. Il y a quelques points où notre Église va bien. Gloire à Dieu. Il y a d'autres points où on est en droit de reconnaître qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a des améliorations. Et ça passe par chacun de nous. C'est pas juste, ouais, Robert, t'es ceci ou cela, et ce n'est pas simplement moi qui dis, oui, vous faites mieux et tout. Non. C'est chacun qui s'examine devant Dieu. Et au verset 14, j'aimerais attirer votre attention sur ce verset pour terminer. Ainsi, lorsque par la grâce de Dieu, nous sommes en bonne santé, spirituellement, nous sommes en bonne santé, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Pourquoi est-ce qu'il y a des sectes? Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes qui ne croient pas toute la Bible ou qui croient à des choses qui sont contraires à la Bible? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de groupes? Eh bien, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas, et des églises, qui ne sont pas en bonne santé spirituelle. Et ça ne doit pas être nous, ici à Vernon. Mais qu'est-ce qui doit nous caractériser? Mais, verset 15, en professant la vérité dans l'amour, cet amour qui est là, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Non pas par les costumes qu'on porte, non pas de la façon dont on est coiffé, non pas le bâtiment dans lequel on vient. Non. L'amour que nous avons les uns pour les autres, ça doit démarrer là. Et c'est Christ qui est le chef. C'est Christ, non pas moi en tant que pasteur ici, non pas un tel ou tel, mais c'est Christ qui est le chef. Et lorsque nous comprenons la place de chacun, Christ en tant que chef, les responsables que lui met en place, les membres de l'Église qui sont impliqués, tous, sans exception, à ce moment-là, nous serons capables d'apporter la lumière de l'Évangile à ce monde autour de nous. Mais ça commence avec nous. Et je vous invite à travers ces semaines à venir, ces mois à venir, alors que nous allons examiner ces différents points, ces différentes caractéristiques, je vous invite à laisser Dieu vous examiner. Je laisse Dieu m'examiner moi aussi. S'il y a des changements à faire, je suis convaincu que notre Église a besoin de certains changements, a besoin d'avancer, que nous ne sommes pas aussi en forme, pour reprendre cette image, que nous pourrions être. Il y a sûrement des changements à faire dans notre vie, parce que l'Église est composée de personnes. Et c'est la santé spirituelle individuelle de ces personnes qui vont faire que l'Église, tout dans son ensemble, est forte pour Dieu. Alors voilà, ces 9 caractéristiques, prédication, théologie biblique, l'évangile, conversion, évangélisation, appartenance, discipline, croissance et des dirigeants, des responsables. Nous allons examiner cela dans les semaines à venir afin que en tout, bien sûr, Dieu soit glorifié. Mais ça commence avec moi. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts à vous remettre en question, à vous examiner? Est-ce que vous voulez que cette Église aille plus loin? Je prie que oui. Et cette décision, elle commence aujourd'hui, avec moi, avec vous, par la prière, par notre présence, par notre implication. Nous avons la possibilité de prendre cette décision. Prenons-la aujourd'hui, individuellement. On va passer quelques instants dans le silence devant Dieu et puis je terminerai par la prière. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu nous as révélé ces choses dans ta parole. Nous te remercions que tu as un projet pour ton Église, que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes, mais ta volonté est claire et révélée dans ta parole. Nous demandons ton aide pour faire les changements que toi tu veux de nous. Tu vois où nous en sommes. Tu vois là où tu veux que nous soyons et par ta puissance que tu nous rends capables de faire, de changer là où tu veux. Que cette Église grandisse, soit en bonne santé, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour la tienne, qu'il soit évident que c'est toi qui es en avant ici, que notre amour venant de toi puisse être évident, et qu'ainsi les hommes voient nos bonnes œuvres et te glorifier dans les cieux. C'est en ton nom que nous prions toutes ces choses. Amen.